Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec vous au micro de Radio Campus 106,6 FM pour l'émission hebdomadaire consacrée à l'Université de Lille, Campus Lille Info. Un thème aujourd'hui que l'on traite rarement dans cette émission, eh bien nous allons parler d'abord d'un événement mais aussi lié à un thème épigénique et environnement. Une journée scientifique qui aura lieu très prochainement avec une équipe ici qui va donc nous présenter ce concept, cette idée d'épigénétique, un mot peu usité dans la langue courante on va dire en France, mais qui paraît-il se développe. On verra dans quelques instants pourquoi et les perspectives d'avenir de ce mot, mais aussi de ce concept. Alors j'ai autour de la table plusieurs personnes, alors on va les présenter par ordre de gauche, de ma gauche à droite, allons-y. Donc nous avons Didier Viaud tout d'abord, bonjour monsieur Viaud.
Oui, bonjour monsieur.
Donc vous êtes enseignant-chercheur.
Oui, tout à fait, donc professeur de physiologie animale à l'Université de Lille.
Voilà, nous avons madame Hélène Frérot, bonjour madame.
Bonjour.
Donc aussi, enseignante-chercheuse.
Oui.
Et puis Jacques Coget, bonjour monsieur Coget. Donc vous êtes président du conseil scientifique de l'environnement.
Oui, c'est ça, et puis anthropologue.
Voilà, et donc cette émission d'aujourd'hui est on va dire, est lié à un événement très prochain.
Alors ça se passera donc vendredi prochain, donc le 13, à l'IUTA, toute la journée, avec en gros deux parties. Une première partie le matin qui va plutôt développer les implications épistémologiques et philosophiques de l'épigénétique, puisque derrière ce mot un peu barbare en fait qui vient du grec, hein, épi ça veut dire sur, au-dessus, donc au-dessus de la génétique, il y a des implications qui reposent le problème de l'inné et de l'acquis, qu'on croyait définitivement enterré depuis quelques années avec le tout ADN, le tout protéine, etc. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est plus compliqué, et pour faire un peu simple et en étant légèrement un peu provocateur, je dirais que ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on fait, ce qu'on ressent pourrait modifier l'activité de nos gènes et même pourrait transmettre cette modification aux générations qui suivent. Donc ça pose évidemment des tas de problèmes philosophiques. Et puis l'après-midi, là, on sera plus axé sur vraiment la partie expérimentale avec les mécanismes épigénétiques et leurs conséquences chez les plantes, chez les animaux et aussi chez les procaryotes, c'est-à-dire en gros les bactéries, quoi. C'est-à-dire comment une bactérie, par exemple, pourrait modifier l'expression génétique de la cellule hôte dans laquelle elle se trouve.
Donc pour cette journée, il y aura des conférenciers. Qui veut bien les présenter ?
Je pense qu'on va présenter plutôt ceux qu'on connaît bien. Donc il y aura donc en ouverture moi-même qui vais jouer le rôle de Candide un petit peu dans l'histoire et pour essayer d'introduire quelques définitions et les problématiques posées par la question. Donc ça s'adressera plutôt au grand public pour essayer de familiariser les gens avec ce terme que l'on entend de plus en plus. Je vous raconte une petite anecdote très rapide. Il y a 7-8 ans, j'étais avec le président de la Fondation Cœur Artère dans un TGV entre Paris et Lille. Et on a fait un sondage autour de nous en demandant aux gens s'ils connaissaient le terme génétique. Tous ont répondu oui, 100% de réponses positives. Le terme épigénétique, 0% de réponses positives. Donc on a un gros travail de pédagogie à faire là-dessus. Et ça sera un petit peu un des objets de la journée de vendredi. Alors ensuite, il y aura le docteur Gilles Denis, qui est un historien des sciences et qui fera une conférence autour du thème de l'épigénétique, de l'histoire de l'épigénétique, en posant une question un peu provocatrice. L'épigénétique est-elle le retour du lamarckisme ? Car vous le savez peut-être, hein, Lamarck était un peu un précurseur du transformisme à l'époque et il revient un petit peu en force maintenant avec cette nouvelle science. Alors ensuite, il y a quelqu'un que monsieur Coget connaît bien qui fera une présentation. Donc Jacques, peut-être peux-tu dire un mot de monsieur Gouillon.
Alors c'est la star des amphis, hein. Pierre-Henri Gouillon, c'est un monument, c'est un colosse à tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui au départ est agronome et qui ensuite a fait un doctorat en génétique, en écologie. Il a fait aussi un DEA de philosophie à Montpellier. Et aujourd'hui, il est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il enseigne également à Sciences Po, à Normale Sup, à Agro-Paris-Tech. Enfin, c'est bon. Donc, le monstre, c'est aussi quelqu'un qui est un peu un conteur, qui a une faconde pour raconter les choses, qui est parfois un peu polémique. Bon, tout le monde ne partage pas ses idées, mais il a au moins le mérite de s'exprimer clairement, d'avoir une énorme connaissance des mécanismes de sélection et donc de leurs applications génétiques et épigénétiques. Et puis après, c'est quelqu'un qui se prête très bien au débat, même si on n'est pas d'accord avec les idées qu'il défend, on peut tout à fait en discuter. Et moi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais producteur à France Culture, de l'inviter plusieurs fois dans des émissions, et ça a toujours été un vrai plaisir. C'est vraiment quelqu'un qu'on écoute et qui est assez fascinant, quoi.
Ben, ensuite, moi, je suis assez contente de présenter le professeur Stéphane Maury parce que c'est quelqu'un qui va un petit peu nous parler de plantes. Et les plantes, ben, contrairement aux messieurs ici présents, c'est un petit peu mon fond de commerce à moi. Et en termes d'épigénétique, on se pose souvent des questions sur les implications au quotidien, dans le quotidien des personnes, mais on se pose moins souvent la question pour les plantes. Donc, le professeur Stéphane Maury, lui, vient d'un laboratoire de biologie des ligneux et des grandes cultures à Orléans. Donc ce qui est intéressant, je pense, pour le grand public, c'est qu'il ne va pas parler de n'importe quelle plante, il va parler de plantes cultivées. C'est quelqu'un qui travaille avec des semenciers et qui travaille en agronomie. Donc avec un questionnement sur l'amélioration des cultures. Et c'est quelqu'un aussi qui est de plus en plus impliqué dans des réseaux scientifiques traitant d'évolution et d'épigénétique. Donc je pense qu'il sera aussi très intéressant pour les débats sur la question.
Voilà. Très bien. Alors, quand on entend le mot génétique dans le grand public, on pense aussi parfois à ce qu'on nous a présenté au niveau des OGM, par exemple, et aux manipulations génétiques. Est-ce que génétique, ça rime avec éthique ? Et est-ce que épigénétique encore davantage ?
Alors ça, c'est un problème qui dépasse de loin la génétique et l'épigénétique. C'est un problème qui relève de la science. Tout simplement, science et conscience, hein, on connaît la formule. Après, il faut bien distinguer deux choses. D'une part, les chercheurs qui, dans leur laboratoire, essaient d'expliquer la complexité du vivant. Et là, le mot complexe, on ne peut pas trouver mieux. Je peux raconter une anecdote, c'est que quand l'ADN, la structure de la molécule a été découverte, donc un des protagonistes, qui s'appelait Crick, a passé une dernière nuit dans le laboratoire à mettre au point le modèle de la double hélice. Et il est sorti du laboratoire, il est allé déjeuner dans le pub où il avait l'habitude, ça se passait en Angleterre, au labo Cavendish, et il a claironné comme ça à la cantonade, nous avons découvert le secret de la vie. Alors, sur le moment, on y a cru, donc ça c'est en 53, hein, c'est un samedi matin de février 53, donc sur le moment, on y a cru. Et puis, dans les années qui ont suivi, on a découvert effectivement comment se faisait la transcription, la traduction, donc les ARN, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, les mécanismes. Et puis un jour, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus complexe et que les mécanismes de la vie, eh ben, ils résistaient encore et toujours. Alors là, on a pris des grandes technologies, on a fait du séquençage, on a fait du décryptage, on a inventé des gros mots comme le protéome, le transcriptome, le génome, tout ce que vous voulez. Et puis à un moment, on s'est aperçu que ben, ce n'était pas ça non plus, que c'était beaucoup plus compliqué. Et c'est là où on a inventé l'épigénétique. Et je dirais que l'épigénétique, aujourd'hui, elle a le vent en poupe. Et d'ici quelques années, on va devoir remettre nos vieux paradigmes au placard parce qu'on va trouver encore autre chose et on y comprendra encore moins et on se reposera la question. Donc ça, c'est la partie vraiment scientifique. Après, il y a qu'est-ce qu'on fait de ces découvertes. Et c'est là où on peut effectivement évoquer, par exemple, les OGM, mais qui n'ont rien à voir avec l'épigénétique, ou bien encore des techniques modernes d'édition du génome, comme le CRISPR-Cas9, donc il y a un mot à coucher dehors, mais qui permet en gros d'avoir des sortes de petits ciseaux moléculaires, de couper un peu où on veut, de bidouiller le génome. Et après, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, certains parlent d'éradiquer le paludisme, ou bien de modifier, par exemple, des maladies qui se transmettent par les gènes. Pour l'instant, il y a un moratoire, mais on sait très bien que les chercheurs ne cessent de dépasser ces moratoires. Et après, bah, c'est le grand public, c'est le citoyen, ce sont les sociétés qui décident à un moment ou un autre ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Pensez par exemple, on parle beaucoup de nouveau de la PMA, qui au passage, je le rappelle, on ne doit pas le dire, puisque c'est l'AMP, aide médicale à la procréation. Quand on parle de procréation médicalement assistée, ça veut dire que de fait, on parle de procréation qui est forcément médicalement assistée. Mais quand les premiers bébés éprouvaient, Louise Brown en Angleterre et Amandine en France, on a dit que l'humain était mort. Or, depuis, il y a des millions d'enfants qui sont nés comme ça et tout le monde est content. Parce que la société, à un moment, était prête à recevoir ça. Dans quelques années, on fera sûrement des bébés dans des utérus artificiels par ectogénèse. Quand ça va sortir, tout le monde va crier au scandale. Et puis, au bout d'un moment, les gens s'habitueront. Et puis voilà. Donc, il y a toujours un décalage entre ce que font les chercheurs dans le laboratoire qui visent à comprendre ce qu'est la vie, comment ça fonctionne, Et puis ensuite, eh ben, la société qui s'empare de ces questions.
Alors, justement, la recherche, c'est aussi souvent, hein, en l'occurrence, de trouver des choses, mais après les appliquer, il y a une responsabilité de la société. Est-ce que les gens qui créent les lois, voire ceux qui les conseillent, paraît qu'on... Les conseillers sont peut-être plus puissants que parfois ceux qui votent les lois, sont bien au fait des problématiques. Et est-ce que vous avez la possibilité de les instruire, sinon de les éduquer ?
C'est de notre responsabilité d'essayer d'instruire et d'éduquer en tant qu'universitaire. Maintenant, est-ce qu'on peut peser sur les lois? Je pense qu'un certain nombre d'entre nous essaient de le faire. Donc j'ai quelques exemples en tête. Par exemple, pour revenir toujours sur la découverte de la structure de l'ADN, James Watson, qui est un des co-découvreurs avec Francis Crick, suite à cette découverte, a été nommé grand directeur de la génétique aux États-Unis. Mais ce monsieur-là a eu des propos un petit peu terribles, hein, des propos de type eugénisme et ce genre de choses. Et la communauté internationale scientifique s'est emparée du dossier et James Watson a été démis de ses fonctions. Donc il y a toujours un moyen finalement de peser sur les événements. Maintenant, vous savez pertinemment aussi bien que moi, et en particulier avec ce qui se passe en ce moment concernant Monsanto, par exemple, que les lobbies industriels peuvent influer sur le pouvoir politique presque plus dans un certain cas que les scientifiques. Vous avez dû entendre cette histoire concernant le Parlement européen, que finalement le rapport qui a été publié concernant le glyphosate, donc perturbateur endocrinien, le Roundup en fait, hein, a été plus ou moins dicté par Monsanto, puisqu'il y a eu un copier-coller dans le rapport final de plusieurs dizaines de pages qui émanait des services de Monsanto. Donc il y a des lobbies d'argent, il y a les scientifiques, et bon, ben, on essaie tant qu'on peut d'établir une certaine vérité, et quelquefois à l'encontre de ces lobbies, mais qui sont extrêmement puissants.
Alors c'est vrai qu'il y a aussi parfois un réveil citoyen. Actuellement, il y a une pétition sur justement ce problème pour alerter la Commission européenne et les directives qui vont être prises, hein, pour justement contrer Monsanto et les gens qui ont des intérêts dans ces affaires-là, des intérêts économiques. Hein. Est-ce qu'on peut justement faire que des intérêts économiques puissent être aussi en parallèle avec des intérêts humains, c'est-à-dire est-ce que là j'ai entendu tout à l'heure Jacques Coget, vous parliez par exemple du paludisme, et il me semble que la Chine s'associe à un autre pays pour essayer de faire que les moustiques puissent moins se reproduire qu'avant quand ils sont porteurs de ces problématiques-là.
Oui, mais c'est pas parce que certains pays vont décider de faire ou de ne pas faire d'abord qu'on ne les arrêtera. A priori, il y a beau y avoir des comités consultatifs d'éthique à tous les niveaux. Bon, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Hein. Ça, il faut bien. D'ailleurs, les comités consultatifs d'éthique sont généralement un peu dépassés par ce qui se passe. Le problème, pour revenir sur le paludisme, c'est que, a priori, pour le citoyen lambda, si on arrive à éradiquer le paludisme, c'est formidable. Bon, éradiquer le paludisme, ça veut dire en fait empêcher les anopheles, donc qui sont les vecteurs, les moustiques, hein, les femelles anopheles qui sont les vecteurs du paludisme, de se reproduire. Et donc, à un bout d'un moment, il n'y aura plus d'anopheles. Donc il n'y aura plus de paludisme. Sauf que les écologues nous disent attention, parce que si on supprime un maillon d'un écosystème dans son ensemble, on va modifier l'ensemble de l'écosystème et on risque d'avoir bien pire. Tout à l'heure, hors antenne, vous nous avez parlé comme ça d'adaptation avec des gènes, donc je sors un peu de l'épigénétique, mais on a des exemples assez clairs. Il y a par exemple le petit atoll de Nauru dans le Pacifique, où la sélection naturelle a fait que de décennie en décennie, on a privilégié un gène, tout simplement parce que les habitants de cet atoll vivaient dans des conditions assez déplorables pour l'époque, et il y avait régulièrement des famines, des disettes, etc. Donc la sélection a avantagé ceux qui possédaient un exemplaire d'un gène qui leur permettait de stocker des graisses à chaque fois qu'ils mangeaient. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a un McDo à tous les coins de l'atoll, mais enfin, ces gens-là se nourrissent tout à fait normalement, comme vous et moi. Résultat, eh bien, ils sont tous obèses et tous diabétiques, parce que le gène est toujours là et continue à faire son travail. Donc quand on change quelque chose, faut se méfier, tout risque de changer.
Bien sûr. Alors c'est vrai que nous, on a toujours la réaction de voir ce qui est bon ou pas pour l'humain. C'est un peu naturel, on va dire, hein, d'un point de vue psychologique.
Moi, je dirais que c'est contre nature.
Oui, tout à fait. Donc, la question est peut-être, alors, par rapport à ça, c'est est-ce qu'il est nécessaire de préserver un patrimoine génétique universel qui ne dépendrait pas forcément de l'humain, mais qu'on aurait, je vais dire, préservé d'une certaine manière, conservé peut-être, je ne sais pas, hein, ou dont on aurait les clés. Voilà. Et puis aussi, est-ce que les études sont suffisantes pour déjà voir lesquelles on pourrait atténuer, justement, par rapport aux services rendus à l'homme, et lesquelles il vaut mieux garder dans l'état. Je ne sais pas comment on peut gérer ça, c'est compliqué.
Ça paraît même impossible, a priori, parce que comment définir ce qu'est un bon patrimoine génétique, ce qu'est un mauvais patrimoine génétique ? C'est une vaste question. On frôle l'eugénisme si on a ce genre de réponse. Donc, à titre personnel, je ne me lancerai pas dans ce genre de discours. Ce qu'on va essayer de démontrer vendredi, finalement, c'est que, d'une certaine manière, quel que soit notre génome, on n'est pas condamné à un certain nombre de choses, et que l'environnement est capable finalement de nous faire, de nous permettre une bonne adaptation, la meilleure possible, indépendamment de notre génome. Mais cela dit, il ne faut pas tomber non plus dans le tout épigénétique, où finalement qu'il n'y a que l'environnement qui façonne les individus. Chacun sera façonné de manière différente par l'environnement, en fonction probablement de certaines parties de notre génome. Le souci étant le suivant, selon moi, c'est que chez l'homme, hein, toujours, actuellement, on a prédit à peu près 23 000, 30 000 gènes. On ne sait pas trop, finalement, parce que tout ça repose sur des programmes informatiques, de bioinformatique, et il n'y a pas de chiffres extrêmement précis. Bon, par contre, ce que l'on commence à savoir, c'est que l'ADN que l'on qualifié d'ADN poubelle il y a quelques années, c'est-à-dire qui était situé en dehors des séquences informatives, en dehors des gènes, on commence à s'apercevoir qu'il sert vraiment à beaucoup de choses. Et une des particularités de l'épigénétique, c'est de justement venir interagir avec cet ADN poubelle. Et l'avenir, selon moi, ça n'engage que moi, sera d'essayer de réconcilier la génétique et l'épigénétique, d'essayer de comprendre comment l'environnement, finalement, en fonction des séquences de notre génome, va pouvoir venir plus ou moins interagir avec telle ou telle partie de l'ADN. Ça va être un peu ça, à mon avis, le problème des prochaines années, c'est d'arrêter ce vieux débat entre l'inné et l'acquis, mais d'essayer de les réconcilier et de comprendre comment l'environnement, finalement, dialogue avec notre génome via des mécanismes épigénétiques.
Alors, autre question qui paraît aussi importante, c'est quand vous dites que l'environnement agit sur éventuellement l'homme et son développement, enfin le fait qu'il évolue ensuite de génération en génération. Est-ce qu'on peut dire que nous avons a priori au niveau du potentiel de quoi évoluer dans des conditions qui pourraient être très différentes? On parle beaucoup en ce moment de modification climatique. Est-ce que certains gènes qui ne sont pas encore complètement utilisés, enfin entre guillemets rentabilisés, pourraient devenir très intéressants dans des moments beaucoup plus complexes?
Oui, alors concernant justement la température et les environnements climatiques, nous sommes chez l'homme, chez les animaux, c'est bien connu. Chez l'homme, ça commence à l'être un peu plus. Nous sommes constitués de tissus adipeux, donc la graisse. Alors je tiens à dire au passage qu'il faut considérer la graisse avec la plus grande bienveillance.
C'est gentil.
Parce qu'elle envoie des signaux, et en particulier vers le cerveau, et qui sont extrêmement importants pour le contrôle de la prise alimentaire, etc. Donc la graisse, ce n'est pas inerte, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique et de fonctionnel. Et il y a aussi un deuxième type de graisse, donc qui ne fait pas que stocker les graisses, qui est la graisse brune, qui est présente notamment chez les animaux hibernants, qui a une protéine un peu particulière, qui fait que la graisse se transforme en chaleur. Donc, ce qui permet, dans des conditions de température un peu extrêmes, de maintenir une température corporelle permettant la survie, en tout cas. Alors, on s'est aperçu que chez des populations inuites, donc qui vivaient dans des froids quand même assez prononcés, qu'on retrouvait une réactivation, finalement, de cette graisse brune. Et probablement, dû à une exposition au froid, on est capable de réinduire cette graisse brune. Et dorénavant, on est même en train d'imaginer que la graisse blanche, donc, qui stocke les graisses, est capable, dans certaines conditions, de se transformer en graisse brune. Et d'ailleurs, c'est une des thérapies qu'on envisage pour lutter contre l'obésité, d'être capable de transformer cette graisse blanche en graisse brune.
Quand on vous entend, on imagine un monde plus que complexe, pratiquement impossible à décoder complètement, et d'une certaine manière merveilleux.
Ah bah c'est je pense que c'est ce qui nous anime tous en tant que biologiste. Vous savez, Pasteur disait, alors je ne suis pas croyant, donc je vais pouvoir le dire encore plus aisément, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science l'en rapproche. Et donc, ce que l'on est en train de découvrir de plus en plus, c'est qu'il y a une espèce d'infinité de mécanismes biologiques dont on ne soupçonnait pas la complexité, mais que cette diversité de mécanismes, finalement, permet de nous adapter le plus possible à l'environnement. Ça permet une finesse de régulation qui est incroyable et que l'on ne soupçonnait pas. Je vais vous donner un exemple, deux exemples concrets. Le premier, c'est qu'on pensait, il y a quelques années, suite au dogme central de Francis Crick, qu'au niveau de l'ADN, l'information n'était codée que par un des deux brins, que l'on appelle le brin codant. Et on s'aperçoit dorénavant que le brin non codant est capable aussi d'exprimer des gènes, ce que l'on ne soupçonnait pas. Ce qui veut dire que tous les programmes bioinformatiques qui initialement ont été prévus pour décoder le brin codant, finalement sont caduques, et qu'il faut revoir un petit peu tout ça, et que probablement il y a plein d'informations dans le brin non codant dont on ne dispose pas. Et un autre exemple que j'ai trouvé fabuleux, c'est une publication très récente qui vient de sortir, qui concerne le diabète de type 1. Donc pour nos auditeurs, je précise qu'il y a deux formes de diabète. Le diabète de type 2 qui est dû à une résistance à l'action de l'insuline. L'insuline n'est plus active pour régler la glycémie. Et le diabète de type 1 qui est dû à un défaut de sécrétion de l'insuline. C'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire qu'on va développer des anticorps contre nos cellules bêta-pancréatiques et on va faire disparaître l'insuline. Donc récemment, ce qui a été montré à l'encontre du dogme central, c'est que le gène de l'insuline, dans certaines conditions, qu'on ignore encore, est capable d'être mal décodé, d'être mal traduit, et qu'il va former des protéines qui normalement n'étaient pas censées exister, ce que l'on appelle le protéome alternatif. Actuellement, on imagine qu'il y a des centaines de milliers de protéines qu'on ignore qui en réalité existent et que cette protéine qui était censée ne pas exister va en fait être responsable des réactions auto-immunes et que ce serait elle qui serait responsable de la destruction des cellules bêta chez les diabétiques de type 1. Donc ça, sur le plan fondamental, c'est totalement nouveau, ce protéome alternatif. Et sur le plan appliqué, bah, évidemment, ça ouvre de nouvelles perspectives car si on est capable de bloquer cette protéine, on peut imaginer qu'on sera capable d'empêcher la destruction des cellules bêta et donc de lutter contre le diabète de type 1.
Alors, une autre question qui me vient à l'esprit, c'est au niveau des défenses immunitaires, a priori, est-ce qu'on a, d'une manière constituée, dans nos gènes, de quoi réagir, faire face? Et est-ce que le fait de prendre certains médicaments ne risque pas finalement d'aller à l'encontre, à long terme, de notre santé?
Je pense que c'est encore plus complexe parce qu'on sait par exemple aujourd'hui, là encore c'est relativement récent, qu'un médicament n'est pas forcément bon pour tout le monde. Déjà on sait qu'il y a une répartition sexuée, c'est-à-dire que chez les hommes et chez les femmes, les métabolismes et les physiologies ne sont pas les mêmes et donc les médicaments n'ont pas les mêmes effets. Et puis après il y a tout l'aspect de l'individu, donc son patrimoine génétique, mais aussi ses modifications épigénétiques qui vont modifier ça. Et puis, dans le domaine de l'immunologie, je dirais que là aussi, on en découvre sans arrêt. Il y a quelques années, on disait on a une flore intestinale, si on a pris des antibiotiques, il n'y a qu'à manger des yaourts, ça ira mieux. Et puis, on s'est aperçu un jour que la flore intestinale, c'était beaucoup plus compliqué que ça. C'est ce qu'on appelle le microbiote aujourd'hui, ou le microbiome. Et qu'en fait, ce sont des bactéries en nombre beaucoup plus nombreux que notre propre patrimoine cellulaire. Elle règle évidemment les problèmes digestifs, mais elle règle aussi les problèmes immunitaires. Elle dialogue avec l'ensemble de l'organisme, pardon, et cerise sur le gâteau, elle dialogue même avec notre cerveau. Donc, quand tout ça pour vous montrer cette fameuse complexité que vous évoquiez, et donc à partir du moment où vous introduisez dans un organisme un corps étranger, en l'occurrence un médicament, ben forcément, il va peut foutre le bazar dans tout ça. Et donc, il peut aussi d'ailleurs avoir des effets épigénétiques, pour revenir à notre journée de vendredi. Et là encore, on est en pleine découverte. Alors, est-ce qu'on peut s'émerveiller? Je crois que oui, par rapport aux mécanismes qui sont la vie, ce sont des mécanismes qui sont merveilleux, on ne sait pas, mais en tout cas qui sont d'une complexité absolument époustouflant et on est très 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 loin d'avoir découvert comment ça fonctionne.
Est-ce que vous invitez les labos pharmaceutiques à vos journées ?
Bah, a priori, on l'a dit tout à l'heure, c'est ouvert. Hein. C'est-à-dire que la journée de vendredi est ouverte évidemment aux enseignants-chercheurs, mais aussi aux étudiants et aussi à des partenaires qu'on a, qui sont dans la région, des naturalistes ou des gens comme ça. Les labos pharmaceutiques, a priori, on ne les a jamais vus. Mais pourquoi pas, hein, ils pourraient venir. Ça fait partie de la mission du Conseil scientifique de l'environnement. Donc justement, d'éduquer, alors à notre modeste niveau, hein, nous ne sommes pas une université, mais aussi surtout de faire réfléchir. Et c'est pour ça que la journée de vendredi est importante, parce que l'épigénétique, comme DJ l'a précisé, c'est pas un phénomène qui est encore très très répandu, même si les médias commencent un peu à en parler. Donc d'une part, faire le point, et puis surtout, poser les questions et faire réfléchir les gens sur le sujet.
Alors on a parlé tout à l'heure un peu des personnes qui votent les lois, hein, qui nous représentent d'une certaine manière, ou a priori, disons. Il y a aussi les médecins, les scientifiques qui sont en charge de notre santé. Et est-ce que ces personnes-là ont de l'information, on va dire, en quantité et de qualité, ou peuvent-elles les trouver ? Est-ce que vous avez vous-même des publications intéressantes à leur proposer ?
Alors le problème de l'éducation des médecins est considérable parce qu'ils ont effectivement de l'information. Mais il n'y a qu'à voir les différents scandales qui se sont passés ces dernières années. Soit ils s'en foutent, il faut bien être clair quand même. Quand les gens vont chercher un coupe-faim, qu'on leur prescrit un médicament dont on sait pertinemment qu'il peut provoquer des pathologies cardiaques, il y a quand même un problème. Donc ils ont accès à l'information mais ils ne vont pas la consulter. Et alors après, conseiller aux gens des publications, c'est considérable. Pensez aussi au problème des statines il y a 5-6 ans. Enfin, c'est la bibliographie aujourd'hui scientifique ou médicale est absolument considérable. Je crois qu'on ne peut plus avoir une personne qui soit capable vraiment de maîtriser l'ensemble d'un domaine.
Alors c'est vrai qu'on aurait pu inviter des spécialistes de l'île 2 à dialoguer aujourd'hui. Peut-être qu'on le refera un jour.
Mais Didier, d'une certaine manière, fait sa recherche à l'île 2.
Oui, il y a des gens de l'île 2, c'est ce qui est mon cas. Je travaille dans un laboratoire qui s'intéresse à la maladie d'Alzheimer, donc sur le CHR. Donc, nous sommes en contact quotidien avec nos collègues cliniciens et très près des préoccupations de santé publique.
Est-ce qu'on peut dire que les jeunes étudiants qui vont sortir médecins, là, sont plus sensibilisés ou plus formés, pourquoi pas, à ces problématiques et à la responsabilité sociétale qu'ils ont ?
On peut l'espérer.
Je pense que la formation, déjà, passe par les parents, essentiellement. Après, la formation universitaire, c'est autre chose, mais je pense que c'est aux parents, déjà, voire même aux enfants, d'éduquer leurs parents, mais que ça se passe au départ dans le cercle familial. La sensibilisation aux problèmes environnementaux ne relève pas de la formation universitaire, me semble-t-il, quoi.
Donc, on peut considérer que pour tous les médecins qui sont des gens aussi humanistes, hein, faut quand même dire les choses, ils n'ont pas des conditions de travail faciles et qui interviennent chez les gens ou qui reçoivent des personnes en difficulté, bien sûr, ils ont quand même cette conscience-là. Est-ce que justement, la relation entre eux et les labos, il ne manquerait pas une interface, on va dire, pour donner des clés de compréhension plus subtiles que ce que les délégués médicaux, on appelle ça comme ça, viennent leur insuffler ou... Enfin, je passe les commentaires.
Alors, est-ce qu'ils en ont le temps ? D'abord, ça c'est une première question. Est-ce qu'ils en ont l'envie ? C'est une deuxième question. Et puis après, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, un médecin généraliste, il va être complètement démuni face à des problèmes qui lui passent totalement au-dessus, même s'il a fait ça au début de son cursus. Peut-être qu'aujourd'hui, on enseigne un peu l'épigénétique dans les facultés de médecine, mais ça doit être quelques heures par-ci, par-là. Et après, il va oublier. Et un jour, un problème va lui tomber dessus. Ce n'est pas le cas de l'épigénétique aujourd'hui, mais c'est le cas des perturbateurs endocriniens. Le sujet est quand même connu depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Or, la grande majorité des médecins ignorent complètement de quoi ils retournent.
Voilà. Bah, j'espère que cette journée mobilisera à la fois les énergies, l'intérêt, et puis aussi à long terme, enclenchera des initiatives dont vous vous sentirez forcément porteur quelque part.
J'espère.
L'espérons.
Merci d'être venu. Je rappelle que nous étions avec Jacques Coget, donc président du Conseil scientifique de l'environnement, Hélène Frérot et Didier Viaud, enseignants-chercheurs. Merci, très bonne journée. Et bonne journée pour celle que vous annoncez donc, le 13 octobre.
Merci beaucoup.